Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, frelon asiatique, moustique tigre, pas de ça chez nous. Sa tête est orange avec un front noir, son thorax entièrement brun noir avec une bande jaune sur l'abdomen, ses pattes sont jaunes à leur extrémité. Avec un tel signalement proposé sur le site de France 3, vous n'aurez plus aucune excuse si dans les prochaines semaines vous croisez la route d'un frelon asiatique sans le reconnaître. Le frelon asiatique, c'est une des espèces dites invasives dont on parle le plus en ce moment en France, notamment dans les régions de l'Ouest. Non pas qu'il soit plus ou moins dangereux de se faire piquer par lui que par un frelon européen. Le problème, c'est qu'il s'en prend aux abeilles, lesquelles sont pour l'instant démunies face à ce prédateur venu d'ailleurs. Alors que de nouvelles espèces envahissent des écosystèmes pour se les approprier, rien de très nouveau dans l'histoire de la biodiversité. Ce qui change, semble-t-il, c'est l'accélération du phénomène. La mondialisation des échanges multiplie les cas de ces passagers clandestins, qu'il s'agisse d'animaux, et pas seulement d'insectes, ou de plantes. Le réchauffement climatique, lui, facilite leur acclimatation, souvent au détriment des espèces locales. Alors face à un tel phénomène, quelle est la bonne attitude à adopter? Tenter de les éradiquer, les empêcher de passer les frontières, ou bien plutôt laisser faire la nature? Frelons asiatiques, moustiques, tigres, etc., pas de ça chez nous. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Franck Courchamp, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez un groupe de recherche sur la dynamique de la biodiversité à l'Université Paris-Sud. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions des Équateurs dans la collection Science « La guerre des fourmis ». C'est une bande dessinée que vous signez avec Mathieu Huguetti et qui est préfacé par Bernard Werber. Pour discuter avec vous, Géraldine Véron, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes zoologiste, et plus précisément mammalogiste. Mammalogiste, c'est spécialiste des petits mammifères, c'est bien ça?
Des mammifères en général.
Des mammifères en général.
Enfin, moi je ne suis pas spécialiste des mammifères en général, mais c'est ce que veut dire le mot.
En tout cas, ok. Vous êtes enseignante chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle et directrice adjointe de l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité.
C'est bien ça.
Et troisième invité, François Lasserre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entomologiste, intéressé donc aux insectes. Vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. On vous doit de nombreuses publications aux éditions Delachaux et Niestlé. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce d'ailleurs Niestlé.
Parfaitement.
Parmi les publications, j'ai relevé celle-ci, vous me direz si ça vous convient. Les insectes en 300 questions-réponses ou encore la nature en 250 idées reçues. Voilà, j'ai relevé les titres dans lesquels il y avait des nombres, des centaines. Alors je voudrais qu'on commence évidemment par essayer de définir ce dont nous parlons ce soir. Qu'est-ce qu'on entend, Géraldine Véron, quand on parle d'espèces invasives ou d'espèces envahissantes? Je crois que les deux termes peuvent convenir.
Ce sont des espèces qui ne sont pas natives dans un environnement, qui ont été introduites par l'homme ou qui ont gagné ces environnements de façon, on va dire, naturelle, mais en allant en dehors, au-delà des limites d'origine de leur répartition. Et on les dit envahissantes ou invasives, en fait, quand elles ont un impact et quand elles se développent peut-être au détriment d'autres faunes, de la faune locale, endémique notamment.
Est-ce que ça veut dire, Franck Courchamp, qu'elles ont l'invasion dans le sang, c'est-à-dire qu'elles sont invasives par nature, un petit peu comme on pouvait imaginer à une époque certains peuples qui étaient des peuples d'envahisseurs, ou bien est-ce qu'elles le sont par hasard, parce qu'elles se sont retrouvées dans des environnements qui ne sont pas les leurs, mais sans l'avoir vraiment cherché, disons?
En fait, elles sont introduites par l'homme, comme ça vient d'être dit. Donc elles ont été au bon endroit, au bon moment, pour elles, pas forcément pour l'écosystème qui va les recevoir. Donc elles sont pas invasives de nature, elles avaient le potentiel dans un certain endroit où on peut les mettre, par exemple des espèces américaines qui seraient mises en Europe ou des espèces européennes qui seraient mises en Asie. La plupart ne vont pas réussir à s'établir et certaines vont réussir et à ce moment-là poser des problèmes.
Ça veut dire que sans l'intervention de l'homme, il ne peut pas y avoir d'espèces invasives?
Alors, il peut y avoir des colonisations d'espèces, mais c'est extrêmement rare. Ça se passe à l'échelle géologique, parce qu'on parle vraiment bien de régions qui ne sont pas accessibles naturellement. Par exemple, parce qu'elles sont sur deux continents différents, parce qu'il y a une barrière géographique comme une mer ou comme une montagne. Donc il peut arriver qu'accidentellement, une espèce passe sur un radeau naturel après un cyclone et colonise un nouvel habitat. Lorsque l'homme les introduit, donc on parle d'introduction, et là on parle d'invasion, parce qu'il y a, c'est pas la nature qui fait ça, c'est vraiment un facteur humain.
Vous pensez quoi du fait, François Lasserre, vous, que l'on parle d'invasion pour certaines espèces?
Le terme est évidemment épouvantable.
Et il y a tout autour de ce sujet une sémantique absolument épouvantable. On parle de cancer, d'invasif, de problèmes, de destruction, de bloquer les frontières, etc. Donc le terme est déjà assez affreux. Et surtout, la plupart de ces espèces n'ont jamais rien demandé. Elles n'ont pas demandé à venir. On les a fait venir par nos échanges. Et voilà, et une fois qu'elles sont sur place, certaines, évidemment, posent problème. Et donc, on a tendance à les stigmatiser. Mais la plupart s'installent tranquillement et nous embêtent pas. C'est beaucoup dans la tête, les espèces invasives. Et c'est, j'ai envie de dire qu'on est un peu câblé pour avoir peur de l'autre. C'est un peu darwinien, cette propension à avoir peur de l'autre et à penser que ça va être un problème. On parle de biais cognitif, il y a un biais de négativité qui est très fort. On a tendance à retenir beaucoup plus les choses qui sont négatives que positives, parce que a priori c'est plus coûteux de résoudre quelque chose qui est embêtant que quelque chose qui ne l'est pas. Et donc il y a toute une mécanique presque psychologique qui s'installe avec ce terme. Et moi, ce que je vois, puisque je suis plutôt en contact avec du public, du grand public, c'est que cette idée d'espèce invasive rentre vraiment dans intellectuellement comme de l'eau dans une éponge. Vous voyez, il y a vraiment c'est quelque chose qui s'imprègne chez tous et personne ne réfléchit au sujet. C'est-à-dire que c'est invasive et donc c'est forcément négatif.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, François Lasserre, mais notamment alors sur la question de la stigmatisation liée au choix de certains termes, notamment l'invasion, et puis aussi peut-être la mesure du phénomène. Mais pour rester d'abord sur la stigmatisation, c'est vrai que quand on parle d'espèces invasives, Géraldine Véron, c'est quelque chose qui a priori fait peur. Je ne sais pas si c'est fait pour faire peur.
Alors je ne sais pas si c'est fait pour faire peur, c'est vrai que c'est un peu le cas, le public ressent ça. Juste pour revenir à ces notions d'invasion, à mon sens, il y a aussi une question de temps. C'est-à-dire que l'évolution naturelle, sur un temps long, d'adaptation et donc d'arrivée, de colonisation par une espèce, se fait naturellement sur un temps long, et donc il y a des phénomènes d'adaptation de l'environnement ou de cette espèce. C'est pas le cas dans des espèces qu'on introduit dans un milieu à un temps T et qui donc cet événement se fait dans un temps court, ces possibilités d'adaptation ne sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment des phénomènes, c'est là où il y a quand même une grosse différence entre le phénomène naturel que mentionnait Franck Courchamp de colonisation et l'introduction, et c'est particulièrement difficile dans les milieux insulaires, par exemple, puisque moi je travaille sur les carnivores, donc les prédateurs, on va se retrouver dans un milieu où il n'y avait pas de prédateurs naturels, donc les espèces sont ce qu'on appelle des proies naïves, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas connu d'autres prédateurs, et là, dans un temps très court, il n'y a pas de possibilité d'adaptation. Après, sur un continent où il y a une diversité et des phénomènes qui se mettent en place d'interaction entre les espèces, peut-être qu'effectivement, on stigmatise des choses alors que des choses peuvent se mettre simplement en place, qui n'est pas forcément d'impact particulier.
François Lasserre, et ensuite à Franck Courchamp.
Et puis, oui, on aurait pu commencer par se définir nous-mêmes, puisqu'on est on est l'espèce invasive type. Voilà, depuis toujours. Et donc, c'est aussi cette. Et puis, depuis tout à l'heure, on entend nature, naturel. Donc, on exclut toujours l'homme du sujet. Donc, l'homme n'est toujours pas dans la nature quand on en parle. Donc, soit il y est, et donc il n'y a pas de nature, on est dans le tout. Et donc on en fait partie, et donc ce qu'on fait est aussi naturel. C'est-à-dire que quand un frelon vient avec ses petites ailes d'Asie, parce que le frelon jaune et noir est originaire d'Asie, quand il vient avec ses ailes tranquillement, qu'il met le temps, là ça va. Mais quand il prend le bateau d'avance...
Là vous parlez du frelon qu'on connaît aujourd'hui.
Le frelon d'Europe, le jaune et noir, puisqu'il y a deux espèces de frelons.
Le frelon d'Europe ne vient pas d'Europe, il vient d'Asie.
Et il est originaire d'Asie, mais il est venu avec ses petites ailes naturellement, entre guillemets. Et l'autre a pris le bateau d'un grand singe, et là, ça nous va plus. Ça nous va plus du tout. On est toujours exclu de la nature, vous voyez. On s'exclut et pourtant, on est l'archétype de l'espèce invasive. On a nous-mêmes exterminé, a priori, Néandertal et les autres espèces qui étaient là sur Terre.
Oui, mais peut-être que justement, comme le disait Géraldine Véron, il y a une rapidité, donc peut-être une brutalité aussi dans l'arrivée de certaines espèces qui fait que les écosystèmes ont moins de temps et moins de capacité à s'adapter sur, en tout cas, cette dimension stigmatisante de l'utilisation de termes d'espèces invasive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Franck Courchamp? C'est vrai que ça laisse entendre le fait que ce sont des espèces qui n'ont rien à faire là où elles arrivent, alors qu'elles n'y sont pas pour grand-chose, puisque vous nous expliquez que c'est souvent du fait de l'action des humains qu'elles se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas les leurs originellement, disons.
Oui. Alors, effectivement, invasion, ça vient du latin invadere, aller à l'intérieur. Donc, c'est vraiment cette idée d'arriver de quelque part. Évidemment, il y a des connotations un peu guerrières derrière tout ça, mais l'objectif est vraiment de faire la différence entre les espèces exotiques, c'est-à-dire des espèces qui viennent d'ailleurs, mais qui ne posent pas de problème, et les espèces invasives ou envahissantes, qui viennent d'ailleurs et qui posent des problèmes. Toutes les espèces qui sont introduites ne vont pas réussir à s'établir, et toutes les espèces qui s'établissent ne vont pas poser de problème.
Il y a une règle d'ailleurs, alors qu'il y a la règle des 10%, c'est ça?
Donc à peu près 10% des espèces qui arrivent, qui sont introduites par l'homme, vont survivre, parce que il n'y a pas d'adaptation entre l'écosystème qui reçoit et cette espèce. Et c'est pas toujours cette espèce qui va gagner, entre guillemets. Et puis 10% des espèces qui vont réussir à survivre et à s'établir vont se disperser et puis poser des impacts, soit sur les écosystèmes, soit sur les sociétés humaines.
Donc 10% de 10%, ça fait 1%.
Exactement.
D'espèces invasives, continuons quand même pour l'émission à les appeler comme ça, qui posent problème.
Voilà. Donc on pourrait penser que c'est pas beaucoup, énorme, ouais. Sauf qu'il y a énormément d'espèces qui sont introduites sans arrêt. En Europe, on pense qu'il y a à peu près 14 000 espèces exotiques qui sont ailleurs. Combien il y en a d'invasives dedans, on ne sait pas exactement, parce qu'il faut réussir à déterminer un impact, à le définir, mais c'est bien pour ça. Et effectivement, je suis d'accord que ces espèces sont des victimes elles aussi. Et là, on est vraiment tout à fait d'accord. On n'est pas en train de dire on veut fermer nos frontières parce qu'on n'aime pas les espèces étrangères. C'est pas du tout le cas.
J'ai vu que l'Union européenne avait une liste d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes. C'est comme ça que ça s'appelle, qui sont des espèces animales et végétales. Liste qui a été mise au jour en 2017. On y trouve des insectes, des plantes, mais pas seulement. Géraldine Véron, le rat musqué en fait partie, le chien vivrain. Qu'on appelle aussi le chien raton laveur, c'est ça?
Oui, oui.
L'ouette d'Égypte, c'est un oiseau.
Oui, en fait, il y a toute une liste. Chez nous sont arrivés effectivement le chien vivrin et le raton laveur notamment, et qui sont des animaux qui avaient été utilisés beaucoup dans l'industrie de la fourrure. Donc on pense que pour certaines d'entre elles, c'est probablement soit ce qu'on appelle des enrichissements de faune, c'est-à-dire qu'on a relâché des animaux pour avoir des animaux à chasser ou pour avoir des animaux à exploiter pour la fourrure, soit pour vraiment des fermes à fourrure. Il y a aussi le wison américain qui est dans ce cas. Et qui ont soit été échappés et se sont établis. Alors à l'heure actuelle, le chien vivrain, il y en a relativement peu, on pense, en France, mais le raton laveur est en train d'étendre très très largement son aire de répartition. Il y a des populations assez importantes en Europe centrale et en Allemagne, et en France, c'est en train d'avancer, on va dire, d'est en ouest, puisqu'il y en a jusqu'en région parisienne.
Mais on peut s'en réjouir de ça, de se dire, plutôt que de faire des milliers de kilomètres pour aller voir dans un autre pays des ratons laveurs, se dire, tiens, on va peut-être avoir l'occasion un jour en France de voir vraiment et de montrer à nos enfants ce qu'est un raton laveur. Pourquoi ça poserait problème?
Alors, il y a différents problèmes. Il y a des problèmes qu'on ne connaît pas très bien, qui sont l'impact qu'il y a sur la faune native, que ce soit en termes de compétition avec d'autres petits carnivores du même genre ou en termes de prédation sur des proies qui ne sont pas habituées à ces bêtes-là. Et puis après, ils arrivent aussi avec toute une charge de pathogènes. Et dans certains cas, ça peut vraiment poser problème. Ce sont quand même des animaux qui portent évidemment la rage pour ces bêtes-là, mais aussi beaucoup d'autres parasites et pathogènes qui peuvent être potentiellement dangereux pour la faune, notamment la faune locale.
Vous dites quoi, vous, François Lasserre? Sans la rage, c'est pas grave.
J'ai peur. Vous voyez, il y a tout ce qui est, c'est jamais positif, vous l'avez remarqué. Alors, je voudrais citer une petite liste d'espèces invasives qu'on connaît bien, la carpe, le châtaignier, la vigne. Je suis allé dans le Médoc, on survole le Médoc, c'est rempli de vignes, c'est pas du tout originaire de France. Et pourtant, c'est bien installé et ça prend un espace incroyable. La pomme de terre, la pomme, la poire, l'avocat, l'aubergine, les coquelicots, les tomates, tout ça sont des espèces exotiques importées, mais sauf que c'est maîtrisé. En fait, je me demande s'il n'y a pas une histoire de liberté. Vous voyez que tant que c'est nous qui l'avons, qui le gérons, tant que c'est nous qui dominons la nature, qui savons que ce champ de maïs, on sait qu'il est là et qu'il n'ira pas ailleurs. Et alors qu'une espèce est dite invasive, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle vit sa vie, et ça, on déteste ça. On déteste déjà nos herbes folles. On les appelle des mauvaises herbes, vous voyez, les adventistes, on les aime pas tellement. Alors en plus, quand elles viennent d'ailleurs et qu'elles sont pas de chez nous, c'est pire. Mais il y a une espèce de vous voyez, de peur en fait. Il y a une part de peur et de biais cognitif dont on a parlé, et une part irrationnelle et émotionnelle, et notamment quand c'est libre et sauvage.
J'ai l'impression que Franck Courchamp est pas tout à fait d'accord.
Alors, je suis tout à fait d'accord que toutes ces espèces-là viennent d'ailleurs, mais elles sont en aucun cas invasives ou envahissantes. Ce sont des espèces qui sont domestiquées, toutes ces espèces qui ont été citées. Effectivement, elles ont été domestiquées d'ailleurs, mais elles ne posent pas de problème. Et dans la définition d'espèces invasives, il y a le fait qu'il y a un impact. La vigne, il n'y a pas d'impact, à part peut-être sur la santé pour ceux qui en abusent. Mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, on n'est pas
du tout... Il y a un impact négatif.
Il n'y a pas d'impact.
Non, ce que je veux dire, quand vous dites dans l'idée d'espèces invasives,
oui,
l'idée c'est qu'il y a un impact, c'est que l'impact est négatif.
Soit sur les écosystèmes, sur la biodiversité, parce que des espèces vont disparaître à cause de ces nouvelles espèces, soit sur les systèmes économiques des humains ou sur la santé.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, justement, d'un impact sur un écosystème qui aurait été profondément modifié, on va dire, par l'arrivée d'une espèce invasive?
Alors, sans parler même de modification profonde. On parlait des mammifères, les 49 qui sont sur la liste. Dedans, il y a un certain nombre de mammifères.
Européenne.
Voilà. Et il y a, par exemple, l'écureuil gris des États-Unis qui a envahi la Grande-Bretagne et qui tue l'écureuil roux parce qu'il est porteur de pathogènes. On connaît très bien cette étude parce qu'on l'a suivi au fur et à mesure que l'écureuil gris a descendu dans le sud et que l'écureuil roux reculait. Et en fait, on sait très bien, les scientifiques qui travaillent là-dessus savent que l'écureuil roux est voué à disparaître en Grande-Bretagne. Le problème, c'est que maintenant, l'écureuil gris, qui est très mignon, qui est moins timide que l'écureuil roux et que les gens aiment bien, il a été introduit en Italie et il commence à s'étendre aussi. Et l'écureuil roux commence à reculer là où l'écureuil gris est présent.
Mais en quoi est-ce que c'est un problème d'avoir, de ne plus avoir d'écureuil roux et d'avoir à la place des écureuils gris?
C'est une bonne question.
À part le choix de la couleur, on peut préférer le roux au gris ou l'inverse. Mais...
Le problème est que l'écureuil gris, il existe déjà ailleurs. L'écureuil roux, il existe que ici. Si jamais l'écureuil roux va éliminer l'écureuil gris des États-Unis, on n'a plus qu'une espèce d'écureuil. Si l'écureuil gris vient éliminer l'écureuil roux d'Europe, on n'a plus qu'une espèce. Si les deux restent sur leur continent, on a deux espèces. Et en fait, le problème des espèces envahissantes, c'est que c'est la seconde cause de perte de biodiversité actuellement. C'est la seconde raison pour laquelle les espèces se sont éteintes dans le passé récent, après la destruction de l'habitat. Donc il y a énormément d'espèces qui disparaissent parce qu'elles sont saupoudrées un peu partout sur la planète et qu'elles nuisent à la biodiversité locale.
Alors Géraldine Véron et ensuite François Lasserre. Géraldine Véron.
Oui, en fait, il y en a plein des exemples, effectivement, puisque c'est vraiment une cause importante de perte de biodiversité. Il est évident que dans des milieux particulièrement, je parlerai plus des milieux insulaires, parce que là, il y a vraiment des impacts qui sont très rapides et très forts. On peut citer un certain nombre d'espèces d'oiseaux, par exemple, qui ont disparu éliminées par l'introduction de la petite mangouste indienne, par exemple, à Fidji. Il y a des espèces qui ont disparu d'oiseaux, de reptiles, parce que ces animaux sont très friands d'œufs et de sûrement aussi des oisillons, et ces oiseaux n'avaient jamais connu de prédateurs.
Et alors, ces oiseaux, on ne les retrouvait pas. On le retrouve nulle part ailleurs.
Nulle part ailleurs. Ce sont vraiment des espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire et uniques dans certaines îles. Et on sait là que, et là, on arrive à vraiment voir cet impact parce qu'on connaît relativement bien la date d'introduction et l'histoire de l'introduction de la petite mangouste. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'aussi, on a des milieux modifiés, donc avec de l'agriculture, avec des espèces domestiques, notamment aussi les chats ont été introduits dans beaucoup de lieux et ont posé aussi des risques d'extinction sur certaines espèces. Donc la balance entre ce que l'homme accepte justement en tant qu'apport d'espèces domestiques ou de modification des habitats naturels par l'agriculture, par l'introduction de cultures variées, qui sont effectivement en général pas des espèces de chez nous, la balance entre les deux n'est pas toujours facile à trouver. Donc dans certains cas c'est très net parce qu'on connaît la date d'introduction, on suit les populations et on voit des extinctions qui sont directement liées, on voit les actions de prédation. C'est le cas aussi des mangoustes sur les nids de 2 de tortues marines où on voit la prédation. Elle est là. Il y a des zones où il y a plus de, des 3/4 des nids de tortues qui sont prédatés par les mangoustes avec un impact énorme sur, pas, sur ces tortues qui déjà ne se sont pas en très, très bonne santé par ailleurs.
Bon, François Lasserre, quand on est dans le cadre de milieux insulaires qui sont peut-être des cas justement un petit peu à part par rapport à ces espèces invasives sur lesquelles il y a des espèces indigènes, disons, qui n'existent nulle part ailleurs, est-ce que ça vaut quand même pas le coup, si ce n'est de s'inquiéter, en tout cas de se préoccuper du fait de préserver ces environnements pour que des espèces qui n'existent qu'à cet endroit ne soient pas vouées à la disparition?
Mais je finis par me demander, c'est-à-dire que... Alors, pour les histoires de disparition d'espèces, c'est surtout sur les îles. Et donc, les chiffres, quand on dit c'est la sixième extinction, c'est surtout, ça concerne les îles. C'est 90% des espèces qui ont disparu étaient sur les îles. Sur le continent, il y a très peu de cas où les espèces ont disparu à cause d'espèces qui venaient d'ailleurs. D'accord. Mais voyez, on parle d'espèces aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Vous voyez, on est comme si on devait conserver en quelque sorte le catalogue de la création divine. On conserve un catalogue d'espèces. On oublie l'individualité complètement de ces animaux. Et donc, à partir du moment où ils sont invasifs, mais là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un regard très naturaliste, très technique, très froid.
Mais à partir du moment où on a une responsabilité, c'est-à-dire où ce sont les activités humaines qui propagent ces espèces. Est-ce que ça paraît quand même assez logique que l'on se préoccupe de l'impact que ça peut avoir, non, François Lasserre?
Mais c'est-à-dire qu'on se met à la place des autres, c'est ça que vous voulez dire, quand des rares...
On assume nos responsabilités en disant la mondialisation économique par exemple, le fait que les transports se mondialisent et que ça puisse accélérer justement l'arrivée de ces espèces exotiques. Alors, si ça a un impact notamment négatif, pas que négatif, mais dans certains cas négatif, il paraît normal que ceux qui en sont responsables à la base cherchent à réguler peut-être ces phénomènes.
Alors bien sûr, avec nos critères subjectifs, il y a plein d'espèces qui nous embêtent, évidemment, et surtout quand il s'agit de santé. Quand des gens sont allergiques au pollen d'une espèce qui vient d'ailleurs ou d'une espèce locale, parce que on oublie toujours de rappeler qu'il y a évidemment des soucis, des problèmes avec nos critères, avec les espèces qui sont évidemment « chez nous », entre guillemets. Évidemment que oui, mais moi je parle de celles qui sont finalement, quand on y réfléchit bien, il y en a plein qui peuvent être très bien là, avec lesquelles on peut tout à fait cohabiter, et qui sont surtout des individus vivants, qui sont pas simplement des espèces. Et donc, quand on est dans cette logique de l'invasif, on va le considérer comme une espèce, on va le détruire, on oublie complètement aussi l'individualité de tous ces animaux qui sont là autour de nous et qui n'ont rien demandé à personne, qui essayent de se débrouiller comme nous, on le fait, qui essayent de survivre. Et en plus, c'est les plus malins à la limite, c'est souvent ceux qui nous ressemblent le plus. Les espèces invasives sont souvent opportunistes, omnivores comme nous ressemblent beaucoup et sont un peu malines. Toutes les espèces qu'on déteste le plus, c'est les espèces qui nous ressemblent vraiment très fortement, comme les rats, les corbeaux, les corvidés, qui ont des capacités cognitives de grands singes, etc. Et donc, dès qu'on sent une menace, je vous le redis, on a une peur terrible, viscérale, on est câblé comme ça.
Franck Courchamp, oui. Sur la question des fourmis peut-être, puisque c'est l'objet de votre livre, La guerre des fourmis. Alors, François Lasserre nous disait qu'est-ce que c'est qu'une espèce. Bon, en tout cas, des espèces de fourmis, il y en a énormément. Ça fait partie des choses que j'ai appris en lisant votre bande dessinée. Il y en a 20 000, dont certaines se retrouvent en compétition, notamment du fait de justement cette mondialisation des échanges. Et puis aussi, vous évoquez l'impact du réchauffement climatique qui fait que certaines espèces vont réussir peut-être à mieux s'adapter justement à de nouveaux terrains et qu'elles n'auraient pu le faire auparavant. Mais 20 000 espèces, imaginons qu'il y en ait un millier qui disparaissent, des espèces de fourmis sur les 20 000. Je vous repose un petit peu la même question que tout à l'heure pour les écureuils, mais est-ce qu'il ne faut pas laisser faire aussi la nature d'une certaine manière?
Alors oui, laisser faire la nature, sauf que là, ce n'est pas la nature. Si on trimballe des containers de plantes ornementales et puis qu'on introduit des fourmis hyper agressives
Et je suis d'accord, des fourmis admirables parce qu'elles arrivent très bien à se débrouiller. En général, les scientifiques qui travaillent sur les espèces envahissantes ont cette petite part d'admiration pour ces espèces qui sont vraiment très, très, très vite adaptées et qui se débrouillent bien. Le problème, c'est que effectivement, il y a une part de responsabilité. Si on perd un millier d'espèces de fourmis, c'est une question éthique, morale, philosophique. Est-ce que on avait le droit de faire ça ? Après, la question, je pense qu'elle se divise en deux parties. C'est vrai qu'il y a des individus et que c'est vrai que lutter contre les espèces envahissantes implique de lutter contre des êtres vivants. Maintenant, il y a deux étapes. Il y a l'étape de lutter contre des espèces qui sont sur place. Et puis, il y a aussi le fait d'empêcher les espèces d'arriver sur place. Et on essaye d'insister beaucoup là-dessus parce que c'est beaucoup plus efficace d'empêcher une espèce d'arriver que de lutter une fois qu'elles sont implantées.
Mais est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à vouloir combattre des espèces qu'on n'aime pas trop, qui n'ont pas une bonne réputation ? Je pense par exemple aux frelons asiatiques, pour défendre des espèces qui, elles, sont censées être beaucoup plus gentilles, beaucoup plus avenantes, comme les abeilles, par exemple.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une espèce gentille et une espèce méchante. Et les scientifiques, ça m'étonnerait vraiment qu'ils mettent ce genre de valeurs derrière. On a des valeurs qui sont très concrètes. Les frelons asiatiques, ils ne tuent pas uniquement les abeilles domestiques. Ils tuent énormément d'abeilles sauvages et d'autres pollinisateurs sauvages. Donc ça peut poser des problèmes. Il y a d'autres espèces qui posent des problèmes à la biodiversité, au fonctionnement des écosystèmes, à la santé humaine. Et c'est uniquement les espèces qui posent des problèmes contre lesquelles on essaye de lutter. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a 14 000 espèces exotiques en Europe, quand on connaît les fonds qu'il y a pour la conservation, on se doute bien que les gens ne vont pas essayer de lutter contre la tomate ou la pomme de terre ou la vigne.
La meilleure façon de lutter contre certaines de ces espèces invasives, et notamment dans les milieux insulaires, Géraldine Véron, c'est quoi ? C'est d'être dans la prévention, c'est-à-dire de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ou alors, une fois que c'est arrivé, c'est quoi ? C'est essayer d'éradiquer au maximum. Je reviens sur le chien vivrin, par exemple. Alors là, c'est pas en milieu insulaire. Mais est-ce que l'idée, c'est quoi ? C'est de les éliminer, de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus ?
Alors là, sur certaines espèces, il n'y a pas d'action qui ont été prises, même si il y a des animaux qui sont chassés, capturés. Hein. Les piégeurs ont le droit, dans certains cas, de les attraper. Pour certaines espèces, il y a eu des expérimentations d'éradication. Ça a été le cas des mangoustes sur un petit îlet en Guadeloupe. Ça a été le cas de rongeurs, de rats sur certaines îles bretonnes. Ça a été le cas des chats au Kerguelen. Alors, ces opérations, elles sont extrêmement compliquées. C'est pour ça que sur un continent, c'est inenvisageable. C'est-à-dire qu'il faut effectivement capturer les animaux jusqu'à ce qu'on n'en capture plus. Donc ça peut prendre des années. Et capturer, dans le cas de la mangouste par exemple, capturer aussi sur les mêmes îles les rats en même temps. Parce que sinon, il y a une prolifération de rats. Là, le but, c'était de protéger certaines espèces d'oiseaux pour l'îlet Fajou auprès de la Guadeloupe. Et les pontes de tortues. Alors ça fonctionne, mais c'est très compliqué. Après, il y a effectivement des problèmes éthiques à ces mesures-là. C'est fait aussi, par exemple, sur l'écureuil gris en Angleterre, hein, ou dans certaines zones, il y a des grandes campagnes d'éradication. Dans certains cas, on se rend compte que ça n'a pas vraiment d'effet, parce qu'on piège, mais ça peut au contraire même augmenter les mouvements des animaux qui vont remplacer ceux qui ont été capturés, etc. Ça peut être très compliqué. Donc il n'y a pas de solution idéale. Il y a des mécanismes de protection souvent qui sont mis en place. C'est ce qui est fait sur les pontes de tortue, hein, d'essayer de trouver des systèmes pour que les mangoustes ne puissent pas accéder aux œufs, donc plutôt que de la destruction. Mais c'est toujours très très compliqué. Et effectivement, l'aspect crucial, en tout cas ça a été le cas pour la plupart de ces mangoustes, par exemple, c'est vraiment d'éviter une recolonisation. Il y a eu, il y a quelques années, une arrivée de mangoustes, d'un couple de mangoustes en Nouvelle-Calédonie, ce qui a complètement affolé tout le monde, à juste titre, parce qu'il y a énormément d'espèces endémiques. Elles ont été capturées, heureusement. Il n'y a jamais eu d'autres notices de cette espèce sur la Nouvelle-Calédonie, mais on se rend bien compte, elle venait probablement de Fidji, on ne sait pas trop, hein, mais on se rend bien compte qu'il y a des apports possibles. Et c'est ces apports-là qu'il faut vraiment limiter. C'est ces apports-là qu'il faut contrôler au maximum. Ce qui est déjà en place, c'est toujours très très compliqué. Il y a vraiment très peu de cas où on a des vrais systèmes qui fonctionnent. Il y a eu par le passé des essais très malheureux d'avoir introduit une espèce invasive et d'en introduire le prédateur. Ça, c'est clair que c'est une seconde catastrophe qui arrive sur la première et ça ne marche pas.
Il y a beaucoup d'articles, notamment en ce moment, je reviens toujours à mon frelon asiatique, ça n'est pas mon frelon, hein. Je le précise. précise. Mais pour, puisque aujourd'hui il y a les nids qui semble-t-il se reconstituent. Donc est-ce qu'il faut détruire les nids? Est-ce qu'il faut prévoir des pièges? En tout cas, manifestement, il n'y a pas l'idée de vouloir éradiquer le frelon asiatique aujourd'hui. Maintenant qu'il est là, il faut bien vivre avec. François Lasserre.
Oui, alors bien sûr qu'il faut vivre avec, parce que les guêpes sociales, c'est très difficile à éradiquer. On a l'exemple de la guêpe, notre guêpe, entre guillemets, on l'a installée en Nouvelle-Zélande, et ça fait 40 ans qu'ils essayent de l'éradiquer, ils n'y arrivent pas. Donc une espèce sociale comme celle-là, a priori, c'est très difficile. Et donc, malgré cela, il est totalement stigmatisé. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, en fait, faut bien comprendre que tous les frelons à pattes jaunes ne détruisent pas toutes les abeilles de France. Mais à partir du moment où il vient d'ailleurs, il est placardé, il est stigmatisé. Donc, pour le piégeage, évidemment qu'il ne faut pas...
Cela dit, le frelon en général, on ne peut pas dire que ce soit l'animal qu'on a le plus envie d'avoir dans son environnement proche.
Alors, c'est protégé en Allemagne, par exemple. Peut-être que les Allemands sont un peu moins... On a un rapport particulier, nous, déjà, avec la nature, faut le savoir. Les Français, vous pouvez tout à fait cohabiter. Je cohabite tous les ans avec deux nids de frelons. Je peux faire la sieste à moins d'un mètre. Je veux dire, le frelon, c'est quand même une bête extrêmement craintive et particulièrement inoffensive. Voilà, on se fait quand même assez peu piquer par les frelons. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas l'animal qu'on croit. On se demande même si c'est pas parce que les Romains les élevaient dans des pots de terre cuite et les jetaient sur les ennemis. Comment on peut avoir aussi peur d'un insecte aussi craintif? On peut même s'approcher. Ne le faites pas, mais on peut même s'approcher d'un nid de frelon. Aussi gros soit-il. Sauf que si vous êtes à moins de 5 mètres d'un frelon, alors ça, il y a toujours des cas.
Il y a toujours
des exceptions, évidemment. Mais le monde où on se fera plus piquer par les hyménoptères, c'est un monde qui ressemblera à un golf, c'est-à-dire où même on met une pelouse synthétique. Là, c'est formidable, là, on n'aura plus aucune piqûre. Mais c'est peut-être pas ce monde vers lequel on va. Mais si les Allemands ont protégé les frelons, c'est parce que ce sont de très grands prédateurs. Ils sont très craintifs par rapport à l'homme. Et c'est des très grands prédateurs. Et les très grands prédateurs, on aime bien les avoir parce que ça nous enlève des grandes proies. Et donc, on peut aussi voir, pour le frelon asiatique, on peut voir aussi ses côtés avantageux. Moi, j'ai pris plein de photos de mantes religieuses en train de se baffrer de frelons asiatiques. Donc, le frelon asiatique, qui est français depuis bien longtemps, puisqu'il est arrivé en 2004, donc ses arrière-arrière-arrière-arrière... Bon, ils n'ont jamais le droit du sol. Les espèces invasives n'ont jamais le droit du sol. Bon, il est bien plus français que moi, le frelon asiatique, à ce jour, maintenant, depuis le temps. Donc, il nourrit les mantes religieuses de chez nous. Il fait des nids de papier absolument, des cathédrales de papier absolument incroyables. Il a une technique de chasse qui est absolument redoutable. Il se met à l'avant. Alors, quand c'est une ruche, évidemment, on l'aime pas, sa technique de chasse, mais l'été dernier, je l'ai évidemment vu utiliser sa technique de chasse devant des nids de guêpes. Mais ça, personne nous dit que le frelon asiatique mange aussi les guêpes qui nous embêtent, qui viennent à table nous embêter. Et puis, très objectivement, il est vraiment très, très beau.
Vous nous disiez avant d'entrer en studio que vous étiez le seul défenseur en France du frelon asiatique. Je ne sais pas si vous êtes le seul, mais enfin, en tout cas, vous êtes sans doute un des plus convaincus. Hein,
alors, oui, mais en fait, c'est juste que c'est quoi notre rapport au vivant? C'est quoi cette façon d'aimer la nature et d'avoir ses têtes? C'est ça que j'interroge. Comment peut-on dire j'aime la nature, mais celui-là il doit mourir et celui doit. C'est plus ça dans le fond. Donc le frelon asiatique, si j'avais une ruche moi, il m'embêterait bien sûr. Mais est-ce que ça vaut le coup de les stigmatiser juste parce qu'ils viennent d'ailleurs?
L'idée, ça n'est peut-être pas forcément, en tout cas exclusivement, de se dire qu'il faut les faire mourir. C'est peut-être aussi d'anticiper leur venue pour mieux s'y préparer. Je voudrais qu'on parle quand même un instant, Franck Courchon, de ce laboratoire, de cette équipe que vous avez mise en place pour faire alors du profilage, c'est ça, sur certaines espèces. C'est-à-dire, on est un petit peu comme dans une équipe d'enquêteurs où on va essayer de prédire ce qui peut se passer si telle espèce arrive sur tel territoire, c'est ça?
Oui, en fait, on a repris un petit peu le principe des profilers dans les séries américaines qui essayent de comprendre le profil psychologique des tueurs en série pour pouvoir les repérer. Et en fait, on a tiré d'une grosse base de données sur les fourmis quel était le profil type écologique de la fourmi envahissante. Et comme on a une vingtaine d'espèces qui sont déjà envahissantes, mais on en a plein qui pour l'instant n'ont pas encore été trimballés par l'homme, mais qui pourraient peut-être avoir ce même profil. Et donc avec ce modèle statistique qu'on a établi à partir de cette vingtaine d'espèces et qu'on a calqué sur toutes les autres, sur un millier d'autres espèces pour lesquelles on avait des données, on a pu repérer une quinzaine d'espèces qui pour l'instant ne sont pas envahissantes,
mais qui pourraient le devenir si elles étaient transplantées ailleurs. Et en fait, dans cette quinzaine, dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y en a 3-4 qui commencent déjà à poser des problèmes parce qu'elles ont été introduites dans certains endroits.
Mais l'idée, c'est quoi ? C'est à partir de ces données que vous avez recueillies, de ces profils que vous avez établis, de faire en sorte que ces fourmis-là n'arrive jamais sur des territoires où elles pourraient être envahissantes,
c'est
ou bien
ça.
C'est d'être capable de s'y préparer, de dire si elles arrivent, on saura quoi mettre en place, que faire pour essayer de s'y adapter le mieux possible.
Si elles arrivent, ce sera comme la petite fourmi de feu, la fourmi électrique, la fourmi fantôme, etc., qui coûtent des milliards aux États-Unis, en Australie, là où elles ont été déjà introduites. On n'arrivera pas vraiment à lutter. Donc c'est vraiment l'idée de les empêcher d'arriver, de mettre les cargaisons suspectes en quarantaine, etc. Le frelon asiatique, c'est une reine fécondée qui est arrivée dans une poterie qui venait de Chine. Donc avec une reine, il y a une quinzaine d'années, on a réussi à coloniser quasiment toute la France. Et nos modèles mathématiques montrent qu'une partie de l'Europe peut être colonisée parce que là, il n'a pas fini encore sa colonisation. Donc on n'arrivera pas à arriver à zéro reine, puisque à partir de une, il suffit d'une pour repartir. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'empêcher les nouvelles espèces qui pourraient être problématiques d'arriver. Et étant donné le nombre énorme d'espèces qui sont transportées tous les ans dans le monde, on ne peut pas empêcher tout d'arriver. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de cibler, de trouver celles qui pourraient poser des problèmes, parce que toutes les espèces ne posent pas des problèmes, pour pouvoir essayer d'empêcher celles-là d'arriver dans des nouveaux écosystèmes.
Oui, parce que ce que vous dites aussi dans le livre, c'est que c'est ce profilage, il permet aussi de disculper certaines espèces qu'on croyait justement nocives et qui ne le sont pas, même si pour François Lasserre, j'imagine que ça ne serait pas forcément une distinction qui vous paraîtrait tout à fait pertinente. Géraldine Véron, vous souhaitiez réagir à ce que disait François Lasserre juste avant, c'est ça ?
Oui, en fait, sur les espèces exotiques, même en France, où apparemment on a une très mauvaise image, on a l'exemple de la genette, qui est une espèce exotique, qui vit en France. La genette, c'est un petit vivéridé, alors ça ne vous dira pas grand-chose de plus. Ça ressemble à un petit chat tacheté, on va dire. Et c'est une espèce qui vient d'Afrique du Nord, qui aurait colonisé, probablement introduite... Non. C'est un autre groupe, ce n'est pas un chat.
D'accord. Un carnivore voilà. Tacheté de taille moyenne.
C'est un grand carnivore tacheté de taille moyenne. Voilà, je disais, c'est la taille d'un chat, mais ce n'est pas un chat. Qui serait arrivé probablement à la fin du Moyen-Âge en Espagne et qui aurait colonisé et qui est maintenant en France, qui est installé depuis longtemps et qui est une espèce protégée en France, qui fait partie des espèces patrimoniales. On n'a aucune idée de l'impact de cette espèce. Elle n'est pas très étudiée en France. Elle est beaucoup plus étudiée en Espagne. On sait qu'il y a peut-être un peu de compétition avec les autres petits carnivores du même style. Mais voilà, c'est une espèce qu'on accepte et que tout le monde, dans les régions où on la connaît, dans le sud-ouest de la France, considère comme une espèce patrimoniale et une espèce bien de chez nous.
Voilà, mais c'est parce que ça fait longtemps, en fait. Quand c'est là depuis longtemps, on s'y fait. Les faisans, on relâche 10 millions de faisans, bon, surtout pour les flinguer, c'est des bêtes qui viennent d'Asie. Tous les ans, on relâche 10 millions de chevaux, mais là, comme c'est pour nos besoins, on en est content. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'elles sont là, une fois qu'elles sont installées, qu'on n'a pas pu faire autrement. Bien sûr, c'est en s'en protéger avant, faire le maximum pour pas qu'il y en ait qui rentrent. Mais avec nos échanges commerciaux, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'elles sont là, est-ce qu'on peut pas changer notre regard sur les non-humains ? C'est absolument incroyable, cette stigmatisation de chaque individu qui sont autour de nous. C'est une vision très, très, très spéciale c'est une vision particulière de voir la nature.
Pour terminer sur une note absolument positive, Franck Courchamp, puisque vous vous intéressez aux 20 000 espèces de fourmis, quelle est celle qui vous plaît le plus, qui vous fascine le plus ?
Elles sont vraiment toutes fascinantes,
oui,
parce que elles ont
chacune leur particularité. Elles ne vous écoutent pas, vous pouvez en choisir une.
Je dirais celle qu'on décrit dans notre dernier chapitre, la fourmi balle de fusil, qui tient son nom de la douleur qu'on peut ressentir à une piqûre de cette fourmi, une douleur qui dure 24 heures et qui est vraiment l'effet d'une balle de fusil.
Voilà, et ben c'est sur cette fourmi balle de fusil que nous allons nous quitter ce soir. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Géraldine Véron, François Lasserre et Franck Courchamp. Les ouvrages, les sites des uns et des autres, c'est sur notre site à nous, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission dans quelques minutes. Elle sera disponible en podcast. Vous pouvez nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de l'émission, pour poser des questions également, et puis des extraits vidéo demain matin, a priori, toujours sur notre site. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Vallat avec à la prise de son Jean Frédérics. Les arts plastiques, c'est le menu de la dispute ce soir à la porte.
On aura toutes sortes d'espèces dans cette émission, même qui viendront de la Lune, puisqu'on parlera aussi de l'expo de Lune au Grand Palais. La question du grain à moudre demain, Hervé Gardette.
Faut-il supprimer la mention du sexe sur les papiers d'identité?
Vous avez votre réponse ou pas?
Jamais à la...
On a un navigateur qui est en route. Il y avait peut-être une réponse, peut-être posée à un ordinateur.
Et on verra demain, à 18h20.
On n'aura pas votre réponse ce soir?
Non.
Bon, on sera à l'écoute. C'est une façon, évidemment, de nous inciter. Vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Antoine Maret.